Ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Morning Tour. Bon, on n'est toujours pas trop synchro. Bonjour à toutes et à tous. Il est 7h16 sur Radio Campus Tour, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Je suis Lou Attard et c'est un plaisir de vous accompagner ce matin en ce vendredi 4 octobre 2024 au programme de cette troisième émission de la saison de l'info, du sport et d'autres sujets traités par les élèves de Master 1 et de Master 2. Ce matin, nous commencerons par le flash d'infos d'Emma Cicli. Nous retrouverons la chronique des élections présidentielles de Théo Leur, les élections présidentielles américaines. Il restera pour présenter l'actualité sportive. Camille Amara-Betati est en studio pour sa chronique Asie aujourd'hui. Cette fois-ci, elle nous parlera du nouveau président sri-lankais. Jules Frécon nous offrira un petit moment sémiotique sur le mot « wesh » qui a fait son arrivée au Royaume-Uni. Nous finirons notre émission sur un texte de Baptiste Villermé. Tout de suite, place au flash info de la journée pour une nouvelle voix dans notre matinale, mais pas sur Radio Campus. Emma Cicli, vous êtes bien dans Good Morning Tour, il est 7h17.
Ce sont quelques 300 entreprises qui seront concernées. Michel Barnier a annoncé sur France 2 lors de l'émission L'événement des hausses d'impôts temporaires de 1 ou 2 ans sur les grandes entreprises qui font plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le Premier ministre a également annoncé des hausses d'impôts pour les plus fortunés, un effort comme il le décrit. Demandez par exemple à un couple au revenu fiscal de 500 000 euros par an, mais pas en dessous. L'objectif, récolter 2 milliards d'euros. Autre annonce qui cette fois-ci concernerait l'ensemble des Français, une baisse de 10% des remboursements de l'assurance maladie. Afin de préserver le budget de la sécurité sociale où un déficit de 16,6 milliards d'euros a été réévalué en mai, le gouvernement envisage donc d'augmenter la part du remboursement des mutuelles qui passerait de 30 à 40%. Éric Chenu, président de la Mutualité française, annonce que tous les contrats seront nécessairement impactés. Au Liban, les combats continuent entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah. L'armée libanaise a annoncé dans la nuit avoir riposté au tir israélien, une première pour les militants libanais depuis un an. À l'aéroport de Beyrouth, certains Français ont pu bénéficier de vols pour Paris, tandis que d'autres sont contraints d'opter pour le bateau. De l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden est serein, convaincu que rien ne se passera, je cite, concernant une riposte israélienne contre l'Iran. Plus tard dans la soirée, dans un post X Twitter, l'Iran a averti Washington que tout pays dans Israël sera considéré comme une cible potentielle. Grève surprise en Corse hier, les ports et les aéroports ont été complètement bloqués. Lancés par le syndicat des travailleurs corse, ces blocages interviennent après l'annonce inacceptable d'Alexandre Patrou, secrétaire général aux affaires corse, qui a émis des doutes ce jeudi sur la création de 2 syndicats mixtes ouverts d'ici la fin de l'année. Par conséquent, des centaines de passagers, vacanciers comme locaux se sont retrouvés complètement bloqués et espèrent que la situation sera vite réglée. Le journal de Clémentine, le livre adapté du podcast Ma vie face au cancer de la journaliste Clémentine Vergniaud, disparue en décembre 2023, sort aujourd'hui en librairie. Dans son podcast, qui a cumulé plus de 2 millions d'écoutes, elle raconte sa traversée de la maladie, un cancer rare et agressif des voies biliaires. Ce vendredi également, l'un des studios de France Info à la Maison de la Radio et de la Musique sera rebaptisé Studio Clémentine Vergniaud.
C'était le flash info d'Emma Cicli, maintenant direction l'outre-Atlantique. J-32 avant l'élection présidentielle américaine. On continue de suivre la campagne dans Good Morning Tour. Théo Leur, vous nous parlez aujourd'hui des candidats à la vice-présidence. J.D. Vance pour les Républicains et Tim Watts pour les Démocrates. Pardon.
En effet, Lou, aux États-Unis, les partis ne présentent pas seulement des candidats, mais ce qu'on appelle outre-Atlantique un ticket. Il faut comprendre un binôme avec 2 candidats ou candidates, l'un à la présidence, l'autre à la vice-présidence. Cette année, vous l'avez dit, côté démocrate, Kamala Harris se présente avec le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Côté républicain, l'ancien président Donald Trump a choisi le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance.
Mais en quoi consiste la fonction de vice-président ?
Vu de France, on voit souvent cette personnalité politique comme l'éternel remplaçant, la personne qui n'a pas beaucoup d'influence, voire même d'importance, si le président n'a pas de problème de santé. On a tous en tête les images de Joe Biden, alors vice-président, et Barack Obama, tout sourire à la Maison Blanche. L'actuel président semblait alors être davantage un conseiller qu'un leader politique. Mais la vice-présidence a en réalité 3 fonctions principales. La première, crédibiliser une candidature et élargir l'électorat. L'un des exemples les plus parlants, celui de John Fitzgerald Kennedy en 1961, alors jeune sénateur du Massachusetts, État du Nord, qui avait choisi Lyndon B. Johnson, sénateur expérimenté du Texas, État du Sud, de quoi séduire tous les territoires et rassurer les plus sceptiques sur l'expérience du jeune Kennedy. La seconde, préparer une candidature. C'est alors une rampe de lancement politique, comme pour Kamala Harris cette année, actuelle vice-présidente et candidate. C'était aussi le cas de Richard Nixon, vice-président d'Eisenhower, mais le lancement aura eu un peu de retard, puisqu'il a d'abord perdu contre Kennedy en 61, pour ensuite gagner contre Johnson en 68. Et puis la troisième, c'est bien sûr avoir la majorité au Sénat. Le vice-président ou la vice-présidente est en effet à la tête de la Chambre haute du pouvoir législatif américain et peut départager les égalités au moment de vote serré.
C'est donc un poste clé pour lequel J.D. Vance et Tim Walz font campagne, comme Donald Trump et Kamala Harris d'ailleurs.
Tout à fait, ils doivent montrer qu'ils sont crédibles et qu'ils peuvent assumer des fonctions au plus haut sommet de l'État. Après tout, les électeurs américains élisent un peu le remplaçant potentiel à la personne qu'ils choisiront en tant que nouveau chef d'État. Vance et Walz ont donc débattu mardi dernier avec pour thème principal le quotidien des Américains. Vous vous interrogez sûrement sur le bilan de ce face-à-face. Sur le fond, rien de révolutionnaire. Le démocrate Tim Walz a défendu le droit à l'avortement, la régulation du port d'armes ou encore l'action contre le réchauffement climatique. De son côté, le républicain J.D. Vance a défendu l'inverse, en plus d'un protectionnisme industriel et d'une xénophobie contre les migrants. Un soutien sans faille à Donald Trump qui contraste avec ses anciennes prises de position. En effet, en 2016, il déclarait que Trump pourrait devenir, je cite, « l'Hitler de l'Amérique ». Le sénateur expliquait mardi qu'il avait, je cite, « eu tort à propos de Donald Trump ». Le moment le plus marquant du débat était la question de Tim Walz pour J.D. Vance. En fin de débat, Donald Trump a-t-il perdu l'élection en 2020 ? La réponse de J.D. Vance, je cite « Tim, je suis focalisé sur le futur. Est-ce que Kamala Harris a censuré les Américains pour qu'ils n'expriment pas leurs opinions à la suite du problème posé par le Covid en 2020 ?» Fin de citation. Rien à voir avec la question donc, et c'est une réponse non. C'est une non-réponse accablante selon le candidat démocrate. Pas de révolution donc dans le paysage politique américain très polarisé actuellement. Le seul point positif est le respect dont ont fait preuve les deux hommes l'un envers l'autre. Espérons que la suite et la fin de la campagne soient dans cette lignée.
Merci Théo de nous éclairer un peu plus tous les vendredis matins sur cette élection qui arrive à grands pas. Maintenant, petite pause musicale, on l'a attendu avec un titre de Jean-Jacques Goldman, Long in the World. Waouh, j'ai fait mon bâtisse là.
Dans ces pays soleil de sable et de pierre, là où malgré les croix et malgré les prières, les dieux ont oublié ces maudites terres. Dans sa pauvre valise, sous ses maigres âmes,
but long in the road.
C'était Longest the Road de Jean-Jacques Goldman. Il est 7h27 et vous écoutez la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours sur Radio Campus Tours. Nous nous retrouvons avec Théo Leur qui nous présente les dernières actualités sportives.
Rebonjour Lou et rebonjour à toutes et à tous dans l'actualité sportive de ce vendredi 4 octobre 2024. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain chute, Lille et Brest épatent. Les Brestois se déplaçaient mardi à Salzbourg et continuent sur leur lancée avec une deuxième victoire 4-0 en autant de matchs en Coupe d'Europe. De son côté, Lille recevait le Real Madrid mercredi pour son premier défi en C1. Face à des Madrilènes inoffensifs, les Lillois ont profité d'un pénalty transformé par Jonathan David pour s'imposer 1-0 et sortir du piège madrilène. L'autre piège de mercredi soir était pour les Parisiens et ils sont tombés dedans en s'inclinant 2-0 sur la pelouse d'Arsenal. Après le match, Luis Enrique a refusé de s'exprimer sur son choix de mettre Ousmane Dembélé à l'écart du groupe. Il a également déclaré à la journaliste Margot Dumont qu'il n'expliquerait pas sa tactique parce que, je cite, « vous ne la comprendriez pas ». De quoi relancer le débat d'une forme de mépris du technicien espagnol pour les journalistes. Dans l'autre Coupe d'Europe, la Ligue Europa, Nice coule, Lyon se balade. Sur la pelouse plus que détrempée de la Lazio Rome, les Niçois ont littéralement pris l'eau hier soir. Ils se sont inclinés 4-1 sans jamais trouver la solution. De son côté, l'Olympique Lyonnais a vécu la soirée inverse et s'est illustré chez les Glasgow Rangers avec une large victoire 4-1. Les Lyonnais assez brouillons ont profité des erreurs des Écossais, de la grande forme de Lacazette et Malik Fofana, tous deux auteurs d'un doublé. Ils signent une troisième victoire de rang depuis leur défaite à domicile contre Marseille. En futsal maintenant, les Français battus aux portes de la finale du Mondial. Au bout d'un match serré, la France s'est inclinée contre l'Argentine 3-2 en demi-finale hier à Tashkent en Ouzbékistan. Pour leur première dans cette compétition, les Bleus ont réalisé un petit exploit en tenant tête à l'Albiceste, vice-championne du monde en titre. Les Français affronteront l'Ukraine pour aller chercher la troisième place dimanche à 14h30. La finale opposera deux ogres du futsal, l'Argentine et le Brésil. Benoît Saint-Denis est revenu sur sa défaite à l'UFC Paris. Le visage tuméfié, l'œil droit complètement fermé, le combattant français de MMA s'était incliné samedi dernier au deuxième round par arrêt du médecin. Je cite, dans le top 10, top 15 de la catégorie, il va falloir mettre plus de game plan en place, être plus tactique et encore plus respecter les points forts d'un adversaire. Fin de citation, a-t-il expliqué à Mouloud Achour dans l'émission Clic sur Canal+. Lunettes de soleil sur les yeux pour dissimuler ses blessures récentes, le combattant de la catégorie des poids légers a annoncé vouloir prendre une longue pause pour profiter de sa famille après avoir enchaîné 6 combats en un peu plus d'un an. Et puis pour terminer, comme toujours, un petit mot des performances des équipes de l'EPJTFC. Les filles ont joué leur premier match amical mercredi. Si elles se sont inclinées, elles ont montré de belles qualités, une envie prometteuse en vue du tournoi de football inter-école de journalisme le 29 mars prochain. De leur côté, les garçons se sont imposés 7-4 en championnat FSGT contre le FAS grâce à un triplé de Thomas Langeard, un doublé de David, dit Didier alias, une réalisation de Julian Schneider et une d'Edgar Ducreux.
Un très bon début de saison pour l'EPJTFC en championnat et un grand bravo aux supportrices et supporters présents hier soir en bord de terrain. Vous êtes toujours sur Radio Campus, il est 7h31, 99.5 FM. On va désormais passer à la chronique Asie de Camille et aujourd'hui elle va nous faire un portrait.
Le Japon a été frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée.
China's a one-party state.
Il n'y a pas de multipartisme avec Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation.
I don't think anyone would call it a democracy.
Bonjour Lou, et oui, aujourd'hui je vais vous parler de Anura Kumara Dizanayake. Ce nom ne vous dit sûrement rien, et pourtant c'est une personne désormais très célèbre au Sri Lanka. Le journal Le Monde le décrit comme un marxiste repenti. Il a remporté l'élection présidentielle. Proclamé vainqueur avec 42,3% des voix il y a 10 jours, il a devancé le chef de l'opposition au Parlement, Sajid Premadasa.
Mais qui est ce nouveau président, Camille ?
Admirateur de Fidel Castro et de Che Guevara, cet homme de 55 ans se distingue de ses concurrents par une idéologie clairement orientée vers le socialisme et la justice sociale, notamment en tant que leader du GVP, un parti d'extrême gauche au Sri Lanka. Sa vision politique repose sur plusieurs principes fondamentaux qui font de lui un acteur clé dans la défense des classes populaires et des travailleurs. Il s'oppose fermement aux politiques néolibérales et aux grandes entreprises capitalistes. Il les accuse de favoriser les élites et d'accroître les inégalités économiques sur l'île Émeraude. Anura a souvent dénoncé les gouvernements successifs pour leur gestion corrompue de l'économie. Il plaide pour une restructuration totale de l'économie sri lankaise et a fondé l'essentiel de sa campagne dans la lutte contre cette corruption qui le gangrène depuis des décennies.
Une figure qui a toujours été populaire ?
Eh bien, pas toujours, Lou. Alors qu'il évolue un peu en marge dans la politique sri-lankaise depuis de nombreuses années, le DVP a connu un regain de popularité à l'occasion du soulèvement populaire de 2022, ayant conduit justement à la fuite et à la démission du président Rajapaksa, si je prononce bien. Avec sa plateforme baptisée National People's Power et différents acteurs issus de la société civile, dont des intellectuels, des artistes et d'anciens policiers et militaires, il a joué un rôle actif dans le mouvement, organisant des manifestations et des grèves. Il a ensuite profité du vide laissé par la fuite du Parlement pour se propulser sur le devant de la scène.
À part le plan économique, quels sont ses autres combats ?
Dissanayake Nayaka accorde une importance croissante à l'écologie et à la protection de l'environnement. Il reconnaît les effets dévastateurs de la déforestation, de la pollution et de la mauvaise gestion des ressources naturelles au Sri Lanka. Son parti plaide pour des politiques de développement durable avec une agriculture respectueuse de l'environnement et une gestion responsable des ressources naturelles. À voir sur ses promesses pour la suite.
Merci beaucoup Camille. On se retrouve après le titre I'm in love de The Cure. Vous écoutiez I'm in love du groupe The Cure. Il est 7h36 sur 99.5 FM et c'est l'heure du deuxième flash info du jour. Emma Cyclis est à vous.
Ce
Ce sont quelques 300 entreprises qui seront concernées. Michel Barnier a annoncé sur France 2 lors de l'émission L'Événement des hausses d'impôts temporaires de 1 ou 2 ans sur les grandes entreprises qui font plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le Premier ministre a également annoncé des hausses d'impôts pour les plus fortunés, un effort, comme il le décrit, demander par exemple à un couple au revenu fiscal de 500 000 euros par an, mais pas en dessous. L'objectif, récolter 2 milliards d'euros. Autre annonce qui cette fois-ci concernerait l'ensemble des Français, une baisse de 10% des remboursements de l'assurance maladie afin de préserver le budget de la sécurité sociale où un déficit de 16,6 milliards d'euros a été réévalué en mai. Le gouvernement envisage donc d'augmenter la part du remboursement des mutuelles qui passerait de 30 à 40%. Éric Chenu, président de la mutualité française, annonce que tous les contrats seront nécessairement impactés. Au Liban, les combats continuent entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah. La banlieue sud de Beyrouth a été lourdement bombardée dans la nuit. En 24 heures, le Liban fait état de 37 morts dans des frappes israéliennes. De l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden est serein. « Nous pouvons éviter une guerre totale », dit-il, au Moyen-Orient. Le guide suprême iranien Ali Khamenei devrait diriger aujourd'hui la grande prière hebdomadaire et prononcer un prêche qui pourrait donner le ton des plans de l'Iran sur la suite. C'était un mystère vieux d'il y a exactement 31 ans. La chouette d'or, l'une des plus anciennes chasses au trésor au monde, a pris fin dans la nuit de mercredi à jeudi. En 1993, Régis Auxerre, connu sous le pseudonyme de Max Valentin, avait enfoui quelque part en France une chouette de bronze. Pour la trouver, il fallait résoudre 11 énigmes. Ainsi, pendant 31 ans, des passionnés sont partis à sa recherche avec elle à clé. En échange, une statuette originale en or, argent et diamants estimée à 1 million de francs à l'époque, donc 150 000 euros. Le co-organisateur Michel Becker, ne s'étant pas encore exprimé, devrait prendre la parole aujourd'hui sur YouTube. C'est une bien triste nouvelle pour les fans de bande dessinée et de science-fiction. Le célèbre scénariste de la BD Valérian et Laureline, Pierre Christin, est mort. Hier au matin, c'est en 1967 qu'il signait avec le dessinateur Jean-Claude Mézières la première aventure de Valérian, sans imaginer le succès international que connaîtront son héros et son héroïne Laureline. Cette série de science-fiction traduite dans une vingtaine de langues inspira des réalisateurs comme Luc Besson, qui réalisera en 2017 une adaptation de sa BD au cinéma. C'était aussi une des figures du journalisme, car en 1968, il crée l'UIT de journalisme de l'Université de Bordeaux, aujourd'hui IJBA, avec Robert Escarpit. L'école lui a rendu un hommage hier.
Merci Emma, il est 7h39. Vous êtes toujours sur Good Morning Tour, sur Radio Campus Tour. Aujourd'hui, Jules Frécon nous en dit un peu plus sur l'arrivée du mot « wesh » au Royaume-Uni.
Bon, j'ose imaginer que vous connaissez tous ce mot, et peut-être même que vous l'utilisez d'ailleurs. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas les seuls. À Londres, wesh serait en train de devenir le mot populaire auprès des jeunes. Ce constat, il a d'abord été livré par Nabil, un TikToker londonien. Récemment, il a publié une vidéo où il indique que tout son entourage est en train de se mettre à utiliser le terme. Dans son TikTok, il dit « London is in a wesh pandemic ». En gros, Londres est entré dans une pandémie de wesh.
Mais comment est-ce que ce mot est-il arrivé jusqu'à Londres ?
Eh bien, selon Nabil, c'est Central Cee, un célèbre rappeur londonien, qui a amené wesh en Angleterre. Dans Bolide Noir, un morceau réalisé en août 2024 avec le rappeur parisien JRK19, il prononce ce que l'on pourrait traduire par, je cite, « Je suis à Paris, j'essaye de draguer, mais ils ne comprennent pas car ils parlent français. Pourquoi ils n'arrêtent pas de dire wesh ?» Bon, à la base, wesh, ça vient pas du tout de la langue française, c'est un mot qui vient de l'arabe. On peut par exemple le retrouver dans l'expression « wesh kain » qui signifie « qu'est-ce qu'il y a ?» ou encore dans « wesh rak » qui veut dire « comment ça va ?» En fait, le mot a largement été popularisé en France via le rap et la culture hip-hop dans les années 90. Pour Julien Barret, un linguiste interrogé par France Info, la musique urbaine peut véritablement populariser du vocabulaire peu répandu. Ce sont les rappeurs qui peuvent épingler une expression et la fixer sur un support sonore et écrit, détaille le linguiste. Résultat, aujourd'hui en France, wesh n'est plus réservé aux rappeurs ou aux personnes arabophones. On a tous déjà entendu quelqu'un dire le terme pour exprimer sa surprise ou tout simplement pour nous saluer. Mais qui aurait imaginé qu'après s'être exporté en France, wesh allait arriver au Royaume-Uni ? Pas grand monde, je pense, et à vrai dire, cette popularité du mot de l'autre côté de la Manche, elle concerne surtout la capitale britannique. L'utilisation du terme ne semble pas avoir touché les autres coins du pays. Pour en savoir plus, j'ai contacté trois personnes vivant à Hull, dans le nord de l'Angleterre, et à Birmingham, la deuxième plus grosse ville du pays. Ces personnes, qui sont des jeunes adultes, n'ont absolument pas entendu parler de cette épidémie de wesh qui toucherait la capitale britannique. En revanche, j'ai pu parler avec Ivor, un étudiant de l'université de Hull, et lui, il était assez bien renseigné. Le vingtenaire suit avec intérêt le rap britannique, il a entendu parler de ce buzz londonien autour du mot « wesh ». Ivor l'utilise même personnellement. Son expression favorite, « wesh, on est là », qu'il aime bien dire quand il croise des Français. L'étudiant n'a par contre jamais entendu cette interjection en dehors de Londres. Selon lui, c'est car la capitale est le véritable fleuron du rap britannique, et donc l'endroit d'où proviennent ces tendances aux origines populaires. Ce n'est ainsi pas un hasard si wesh a pris ses premières racines anglaises à Londres. Donc on a peut-être l'habitude d'entendre ce mot à Tours, mais c'est pas tout de suite qu'on verra un mancunien arriver au pub et hurler « wesh » à tous ses potes pour se faire remarquer.
Il est 7h42 sur Radio Campus Tours, l'heure d'écouter Bella Ciao, le célèbre chant des résistants italiens lors de la Seconde Guerre mondiale.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
C'était Bella Ciao, et avant de clôturer l'émission, nous accueillons Baptiste Villermé en plateau pour une chronique. Il est là pour nous parler d'un de ses amis.
Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un ami, d'un frère. Notre histoire se passe dans nos montagnes, dans notre ville, notre belle cité, Grenoble, capitale des Alpes. Mon ami, il s'appelle Sacha. Sacha, il a un sourire à couper le souffle, il sourit tout le temps. Tout autour de son sourire, on est tout de suite marqué par sa barbe. Une vraie barbe, si elle n'est pas entretenue, elle devient très vite énorme. Vraie différence avec beaucoup de nos copains et leur pilosité hésitante. Lui et moi, boxons dans la même catégorie, même si c'est sûr qu'il me dépasse de loin. Un jour, nous nous sommes lancés un défi. Qui craquerait le premier et irait au barbeur pour tailler. Sacha collectionne aussi les coupes de cheveux étonnantes. Des cheveux rouges bouclés aux cheveux totalement rasés. Jamais je n'ai réussi à comprendre la logique de son style capillaire. Sacha, c'est aussi un teufeur. Il adore taper du pied et danser. Que cela soit dans des champs, dans des hangars ou au dracart, jusqu'à pas d'heure. Toujours jusqu'à beaucoup trop tard pour moi. Là non plus, je n'ai jamais compris ce qu'il trouvait à ce type de musique. Mais c'est son kiff, je respecte. Il a toujours voulu que je mette les pieds en teuf. Promis, ça arrivera un jour, peut-être, ou pas. À contre-courant de ça, Sacha est un danseur hors pair. Diplômé du conservatoire de Voiron en juin 2023, il excelle en danse contemporaine. Seul ou accompagné sur scène, il est à sa place. Il le dit d'ailleurs lui-même dans une vidéo où il présente son art sur ses réseaux sociaux. La danse, c'est un peu comme une drogue. Si je ne danse pas, je ne suis pas très bien. Sacha, c'est aussi un débrouillard de la vie. Un travailleur, un acharné. Il tombe, se relève, mais ne lâche jamais. Tantôt vendeur de sushis, tantôt préparateur de commandes et depuis peu serveur. Sacha, il a plein de casquettes. Sacha, il aime aider et s'occuper des hommes, des autres. Sacha, c'est un homme avec des valeurs. Un militant, un antifasciste convaincu. Je l'ai rencontré lors des mouvements lycéens en 2020. Cela fait maintenant plus de 4 ans. Ses camarades et lui se battaient contre la réforme des retraites. C'était avant que la crise du Covid-19 vienne tout chambouler et tout foutre en l'air. Grand fan du GF38, il collectionne et enchaîne les kilomètres en déplacement. En voiture, en J9 ou en bus, toujours pour voir jouer son club de cœur avec son groupe Ultra. Sacha, il ne ment jamais, il ne trahit pas. Sacha, il parle avec le cœur, avec amour, toujours. Sacha est un battant contre les difficultés de la vie ou contre la maladie. Elle porte un nom, c'est la myopathie. Cette foutue maladie, chevillée au corps depuis sa naissance, Sacha se battait sans cesse contre elle, mais lui ne voulait jamais rien laisser transparaître devant les autres. Sa maman l'explicite si bien, il faisait comme si de rien n'était. Lui, qui n'avait absolument rien demandé, il ne voulait qu'une seule chose, vivre normalement et profiter des siens tant qu'il le pourrait. Sacha, il embellit nos vies, il embellit les vies de tous ceux qu'il croise, à n'importe quel moment de sa vie. Quelles que soient les circonstances, Sacha est toujours un appui. Mais Sacha est parti, brutalement, dans la nuit de lundi à mardi. Cette foutue maladie lui a tout pris. Sacha avait 21 ans, et une vie qui s'annonçait remplie d'amour et de défis. Sacha, il laisse derrière lui un vide énorme. Plus que des amis, plus qu'une famille, c'est toute une ville qui le pleure et qui a du mal à dormir. Et ce, depuis maintenant plus de 4 nuits. Sacha, mon ami, Sacha, mon frère, ne t'inquiète pas. Pour toi, on va continuer le combat. Dans le même temps, on va te rendre hommage pour te montrer à quel point nous t'aimons. Fumigènes, chants, clameurs, pleurs, nul doute qu'ils seront de la partie. Sacha, je te demande une seule chose, veille bien sur Alban de tout là-haut. Ton étoile brille désormais dans le ciel de Grenoble aux côtés de la sienne. Un ultra ne meurt jamais. Sacha, grenoblois. Sacha, dauphinois. Sacha, diable bleu. Sacha, tribune ouest. Sacha, antifa. Sacha, l'un des nôtres, pour toujours et pour l'éternité. Sacha, jamais sans toi.
Merci beaucoup Baptiste. En journalisme, on ne parle jamais de nous, mais toujours des autres, et encore moins des nôtres. Alors Sacha, on pense à toi. Il est 7h48 sur Radio Campus Tours, déjà l'heure de vous remercier d'avoir écouté cette troisième édition de Good Morning Tours de l'année. J'aimerais comme d'habitude saluer chaleureusement toute l'équipe qui a rendu cette émission possible. Merci à Baptiste, Emma, Jules, Théo et Victoire pour leur chronique et les flashs, infos et sports. Un grand merci toujours à Victoire, hein, Renard de Winter, qui a assuré à la technique comme toujours. Il est temps de se quitter, n'hésitez pas à aller consulter le Twitter de l'émission pour ne pas rater un replay ou directement sur le site de Radio Campus Tours. Rendez-vous la semaine prochaine, 7h15 sur 99.5 FM, pour une nouvelle matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Très bonne journée à toutes et à tous. Sacha, on pense à toi.